Vous écoutez, on lit pour vous.
Le prix d'un style de vie à votre image. Un texte d'Ariane Lebreu et Bâché, Isabelle Chénier et Maude Gauthier, paru le 12 juillet 2023 dans le journal Métro. Métro a sondé 4 Montréalais montréalaises pour savoir quel serait leur style de vie de rêve. Quel est leur quartier de prédilection? Quel type d'habitation leur plairait le plus? Qu'est-ce qui ferait leur bonheur en matière d'activité, de services et de soins personnels? On a ensuite demandé l'aide de Arbacon pour déterminer combien leur style de vie idéal coûterait dans la vraie vie. Voici les résultats. Une vie de luxe dans un manoir flamboyant d'Outremont. YouTubeuse, créatrice de contenu et animatrice, Marianne Plaisance est reconnue pour ses goûts et projets qui sortent de l'ordinaire. Et son style de vie idéal va en ce sens. À 31 ans, la Montréalaise qui habite un condo avec son conjoint rêverait d'habiter un manoir d'Outremont décoré en mode design, de voyager et d'adopter une baleine. Combien ça coûte tout ça? Le style de vie de Marianne dépasserait 1 million de dollars par an après les dépenses initiales pour acheter ses propriétés. Un manoir et des résidences secondaires. Une maison qui correspond à ces critères a été trouvée pour elle dans Outremont pour la somme de 5 950 000 $. Le terrain fait plus de 16 000 pieds carrés et inclut une piscine creusée et un étang. L'hypothèque mensuelle pour la demeure est de 27 684 $ avec des droits de mutation de 191 128 $ et des taxes annuelles de 32 906 $. Pour meubler les 16 pièces de manière design et artistique, on prévoit un budget de 100 000 $. Marianne désirerait avoir une maison secondaire loin de la ville. Une maison située à Mont-Tremblant a été choisie pour elle, au coût de 1 975 000 $. Le versement mensuel pour cette demeure serait de 9 189 $, la taxe de bienvenue de 39 433 $ et les taxes annuelles de 7 608 $. Et ça ne s'arrête pas là pour ces propriétés. La créatrice de contenu voudrait un appartement à Paris et un autre à New York parce que, pourquoi pas? On évalue le tout à 1 million de dollars US pour son pied-à-terre new-yorkais et à 600 000 euros pour son pied-à-terre parisien. En dollars canadiens, ces deux appartes lui coûteraient près de 2 200 000 dollars, soit 35 529 dollars par mois. Des frais pour les meubles et les frais de clôture pour l'acquisition sont aussi prévus. L'entretien ménager pour les 4 propriétés coûterait plus de 10 000 $ considérant que le ménage serait fait une fois par semaine dans sa résidence principale, 2 fois par mois au chalet et une fois par mois dans les appartements. Un chien et une baleine. Marianne aimerait acheter un grand danois comme animal de compagnie ainsi qu'adopter une baleine qui resterait, évidemment, dans son habitat naturel. L'adoption de cette dernière coûterait 555 $ et pour le chien et ses accessoires, 3 000 $ est prévu pour son adoption, plus un autre 3 000 $ par année environ pour ses besoins. Pas de voiture. Un budget de taxi Uber est aussi alloué pour ses déplacements, puisque c'est ainsi qu'elle préférerait se déplacer. Celui-ci s'élève à 10 220 $ par an, soit environ 28 $ par jour. Plusieurs voyages par année. Marianne ferait idéalement 3 voyages de ski par hiver, un voyage dans un resort de luxe par année, un voyage d'exploration par année et visiterait New York et Paris plusieurs fois par année. Une somme de 4 500 $ doit être prévue dans son budget pour l'achat de billets d'avion afin qu'elle visite ces deux villes fétiches 3 fois par année chacune. Pour une semaine dans le resort de luxe, on parle d'environ 18 585 $ pour une semaine. Les dépenses liées à ses voyages de ski s'élèveraient à environ 10 000 $ et celles pour son voyage d'exploration à 6 000 $. Laser, massage et glam. L'animatrice de 31 ans aime prendre soin d'elle. Elle aurait recours à des soins de visage une fois par mois, à un massage par semaine, à une visite d'une coiffeuse à domicile aux 3 mois et à l'épilation au laser. Elle s'achèterait également des vêtements de designer et engagerait une équipe glam pour des événements quelques fois par année. Le tout est estimé à environ 22 500 $ par an, en plus de visites chez le psychologue 2 fois par mois, ce qui coûterait 3 000 $ par année. Recevoir en grand. La YouTubeuse voudrait pouvoir recevoir en grand quelques fois par année. Une somme de 8 000 $ est prévue à cet effet. Celle-ci lui permettrait de recevoir une dizaine de convives par événement en mode tout inclus. Vous écoutez « Le prix d'un style de vie à votre image », un texte d'Ariane Lebreu et Baché, Isabelle Chénier et Maude Gauthier, paru le 12 juillet 2023 dans le journal Métro. Une vie tout en simplicité volontaire. Bien qu'on ait précisé à Éloi Tousignan lors qu'il pouvait imaginer un style de vie exigeant un budget très élevé, celui-ci rêve plutôt simplement. Le jeune homme de 24 ans est présentement étudiant en création littéraire. Fier à Ahuntsicoa, il habite chez ses parents dans un appartement et travaille comme agent administratif. Son style de vie de rêve est modeste, continuer de vivre dans son quartier dans un petit condo, voyager de temps en temps et se permettre quelques dépenses pour des sorties ou des achats. Combien ça coûte tout ça? Le style de vie de rêve de cet étudiant s'élèverait à un peu moins de 50 000 $ par année, après des frais uniques de 70 288 $ pour la mise de fonds de son condo, le paiement de ses taxes de bienvenue et l'achat d'un vélo électrique. Un spa dans la cour. Éloi habiterait dans un condo équivalent à un 3,5 dans le quartier d'Ahuntsic et aurait comme petit luxe un spa dans sa cour arrière. L'achat d'une unité dans un immeuble à condo avec piscine et salle d'entraînement dans le quartier s'élève à environ 325 000 $. La mise de fonds serait de 65 000 $. Donc, il faudrait prévoir des paiements mensuels de 1 512 $, taux de 5 % avec prêt sur 25 ans. Les droits de mutation seraient de 3 218 $ et les taxes annuelles de 1 535 $. Juste un chat. L'étudiant de 24 ans aimerait adopter un chat dans un refuge. Cela lui coûterait environ 200 $ par année pour la nourriture et 2000 $ par année pour les soins, pour un total d'environ 2200 $ annuellement. Pas d'auto. Pour sortir de la ville, Éloi utiliserait les services de communauto au coût de 50 $ par jour, quelques fois par année. Il continuerait également de prendre les transports en commun en sol montréalais, donc débourserait 1 128 $ en titre de transport par an. Étant donné qu'il aimerait aussi avoir un vélo électrique, on ajoute un peu moins de 2 000 $ à ce budget. Voyage et boîte repas. Éloi aimerait voyager 2 fois par année en Europe, en Asie ou dans le Sud. Son budget voyage annuel est évalué à 6 000 $ par année puisque les billets d'avion pour ces destinations ne sont pas donnés. Éloi aimerait faire appel au service de boîte repas pour se nourrir au quotidien. Il compléterait le tout avec une petite épicerie hebdomadaire. Avec HelloFresh, le service de repas lui coûterait environ 115 $ par semaine pour 10 portions. Cela l'amène à 6 000 $ par an, plus 2 600 $ d'épicerie. Un entraîneur privé. Éloi aimerait consulter une psychologue et une travailleuse sociale qu'il verrait respectivement 2 fois par semaine et 1 fois par mois. Cela lui coûterait environ 120 $ par séance pour un total de 4 320 $ par an. Il aimerait avoir recours au service d'un entraîneur privé 1 fois par semaine, ce qui lui coûterait environ 240 $ par mois, tout comme ses cours de natation. Un budget activité. Éloi aimerait aller au cinéma environ 2 fois par mois. Il souhaiterait aussi aller au musée et aller voir des spectacles de temps en temps. Il s'en sortirait donc pour un total de 800 $ par année. Son budget restaurant et bar est estimé à 1 200 $ annuellement, puisqu'il les fréquente peu. La vanille en famille. Chargée de cours au cégep et serveuse dans un resto-bar de Montréal, Stéphanie Homais est à la recherche d'expérience et son style de vie de rêve lui donnerait des ailes pour partir à l'aventure. En plus d'une vie à deux et éventuellement à quatre avec deux enfants dans un beau condo de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, la jeune femme queer de 27 ans souhaiterait partir, quand bon lui semble, à bord de sa vanne. Combien ça coûte tout ça? La vie de famille rêvée de Stéphanie coûterait environ 120 000 $ par an pour deux adultes et autant d'enfants. À ce montant s'ajouterait une dépense unique de 312 750 $ pour l'achat d'une fourgonnette, la mise de fonds et les frais de démarrage du condo. Un nid à Hochelag et la Sprinter de Mercedes. Stéphanie souhaiterait établir son petit nid familial dans un condo avec trois chambres dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Une propriété de ce genre s'affiche généralement sur les moteurs de recherche immobilière à une valeur approximative de 585 000 $. Une mise de fonds de 20 % soit 117 000 $ devrait également être prévue. Une fois les clés en main, Stéphanie aurait à effectuer les paiements des mensualités hypothécaires de 2 722 $ estimés à partir d'un taux d'intérêt de 5 % avec un amortissement sur 25 ans. À ces coquettes sommes s'ajoutent des montants annuels de 4 105 $ pour les taxes foncières et scolaires, en plus des frais de condo qui grimpent à 2 748 $. Il faudrait aussi qu'elle règle les droits de mutation, qui représentent une somme non récurrente de 7 000 $. Pour créer un environnement qui lui ressemble, Stéphanie aurait recours à un designer pour rénover sa demeure. Pour un projet de 25 000 $, des honoraires de 15 % s'élèveraient à 3 750 $. En plus de son pied à terre dans la grande ville, Stéphanie désirerait aussi pouvoir partir à l'aventure sur le fly à bord de sa fourgonnette. Et pas n'importe laquelle, la Sprinter de Mercedes entièrement aménagée pour la van life en famille. Le modèle qu'elle convoite se vend entre 150 000 et 200 000 $. Vacances de ski. Stéphanie souhaiterait passer plusieurs semaines par année à dévaler les pentes de ski d'Amérique du Nord ou d'Europe. Un budget de 5 000 $ par adulte par période de 5 ans lui permettrait d'acheter l'équipement nécessaire, soit des paires de ski, une planche, un casque et des bottes. L'habile skieuse et planchiste a épinglé plusieurs destinations de ski de rêve aux États-Unis et en Europe. Concernant la dernière option, le coût des billets d'avion totalise 3 200 $ par voyage pour la famille, quelques dizaines de dollars en crédit carbone qu'elle souhaiterait aussi acheter pour compenser ses vols en avion augmentent de manière négligeable la facture. Et une fois rendue à destination, à la station Val d'Isère, par exemple, un forfait d'une semaine coûte à peu près 4 000 $ canadiens par personne. Si elle décidait plutôt de partir un mois en fourgonnette pour skier en Utah aux États-Unis, elle épargnerait. Toutefois, l'hôtel de manière hebdomadaire représente des frais d'environ 2 000 $ ou 325 $ US par nuit pour toute la famille. Les prix d'une passe de saison dans les grands domaines skiables en Utah oscillent autour de 1 269 $ US par adulte. Bref, un voyage de ski par année représenterait une dépense familiale annuelle de plus ou moins 10 000 $. Une corne d'abondance de bouffe et d'alcool. Côté nourriture et de l'alcool, Stéphanie veut se gâter. Elle consacrerait 200 $ par semaine à la nourriture et 100 $ à l'alcool pour une somme annuelle de 16 000 $. Mais ce n'est pas l'épicerie qui coûterait le plus cher. Son petit plaisir, c'est de découvrir les différentes cartes de restaurants, parfois chics, et de trinquer dans les bars. Pour deux adultes, ce train de vie entraînerait des dépenses d'environ 15 000 $ par an. Son autre souhait consisterait à recevoir en grand toutes les semaines au moins 10 personnes. Pour rassasier la faim et la soif de tout ce beau monde, on parle de dépenses en vin d'environ 12 000 $ avec des bouteilles à 25 $ et d'un autre 12 000 $ en nourriture. Place à la coquetterie. Stéphanie aimerait faire une visite chez le coiffeur tous les trois mois, avoir un massage saisonnier, une manucure et une pédicure toutes les 3 semaines. Elle aurait aussi recours mensuellement à des soins psychologiques et elle ferait appel à des services d'entretien ménager pour son condo. Bénéficier de cette gamme de soins coûterait à Stéphanie approximativement 10 600 $ par année. C'était « Le prix d'un style de vie à votre image », un texte d'Ariane Lebreu-Ébaché, Isabelle Chénier et Maude Gauthier, paru le 12 juillet 2023 dans le journal Métro.
L'heure du conte, vraiment, pour tous. Un texte de Véronique Larocque, paru le 23 septembre 2025 dans la presse. Léa, une feuille multicolore, s'envole au vent et se retrouve devant un gentil serpent. En regardant le reptile ondulé, elle se dit « Ses mouvements sont comme des mots que je peux voir. » Cette scène est tirée de Léa, la feuille aux mille couleurs, une histoire imaginée pour les enfants sourds ou malentendants, par l'autrice sourde Chantal de Guire. Les aventures de la petite feuille ne sont pas racontées dans les pages d'un livre. Narrées en langue des signes québécoise, LSQ, elles prennent vie sur ordinateur ou sur tablette. En effet, Léa, la feuille aux mille couleurs, est l'une des 3 histoires interactives lancées il y a quelques mois par Eversa, organisation qui contribue à l'inclusion des personnes sourdes ou malentendantes dans la société. Il s'agit de la première initiative du genre au Canada, affirme en LSQ Caroline Hould, coordonnatrice des services de consultation chez Eversa. Mettre de l'avant la culture sourde. Il existait déjà des vidéos de livres écrits en français, puis traduits en LSQ, explique-t-elle, avec l'aide d'une interprète. Inspirée par les façons de faire de l'université américaine Gallaudet, institution importante pour la communauté sourde, l'équipe d'Eversa a créé ces histoires interactives dans l'ordre inverse. Le texte a d'abord été développé en LSQ, pour ensuite être traduit en français. Dans l'application, chaque page virtuelle présente ses 2 versions. Il y a des subtilités culturelles à travers les histoires, dit Caroline Hould. Par exemple, il y a des expressions à LSQ qui sont propres à la langue des signes. Parfois, il n'y a pas d'équivalent écrit en français. Pour illustrer son propos, elle ouvre puis ferme ses paumes. On va utiliser ce signe-là quand on veut exprimer qu'on est impressionné, indique-t-elle, en observant que ce geste rappelle des yeux qui s'écarquillent. Apprendre la LSQ tôt. À travers ce projet, Eversa souhaite permettre aux jeunes sourds ou malentendants d'entrer en contact dès l'enfance avec la LSQ. Car non, ce n'est pas nécessairement la première langue qu'ils apprennent, dit Caroline Hould. Cela s'explique par plusieurs facteurs, à commencer par le fait que la très grande majorité des enfants sourds, environ 90%, naissent dans des familles entendantes. Si je suis une personne entendante qui ne connaît pas les signes, qui ne connaît pas la communauté sourde ou l'histoire des sourds, comment je peux transmettre ça à mon enfant? Il faut que moi, je fasse un effort en tant que parent pour apprendre la langue des signes et m'impliquer dans la communauté. C'est sûr que je préfère enseigner le français à mon enfant, analyse Caroline Hould. Souvent, les enfants vont apprendre le français en premier et ensuite la LSQ sur le tard, lorsqu'ils sont adolescents ou jeunes adultes, observe-t-elle. Or, des études démontrent qu'il est plus facile pour les enfants sourds d'apprendre d'abord la LSQ, car cette langue visuelle est pour eux plus naturelle qu'une langue sonore. Deux visions. Pour développer ces histoires interactives, Eversa a pu compter sur le soutien financier du gouvernement de l'Ontario, qui reconnaît la langue des signes québécoise et l'American Sign Language, ASL, comme langue d'enseignement. Ce n'est pas le cas au Québec, bien qu'il existe des écoles spécialisées pour les enfants sourds. Aux yeux de Caroline Hould, deux visions de la surdité s'opposent. L'une, plus médicale, voit la surdité comme étant quelque chose à réparer. On va, par exemple, procéder à une opération d'implant cochléaire. Les parents pensent souvent que c'est une solution magique, que leur enfant va devenir entendant. Mais non, c'est beaucoup, beaucoup d'entraînement, affirme-t-elle. Puis, il y a une vision plus socioculturelle de la surdité, qui est basée sur l'apprentissage de la langue des signes québécoise, explique celle qui croit en l'importance de défendre sa langue. certains membres de la communauté sourde utilisent le terme « sourd » avec une majuscule pour mettre l'accent sur l'identité culturelle et linguistique des personnes dont la langue première est la langue des signes. Trois questions pour démystifier la réalité des personnes sourdes. Caroline Hould, coordonnatrice des services de consultation chez Eversa, organisation qui contribue à l'inclusion des personnes sourdes ou malentendantes dans la société, nous répond. Pourquoi les personnes qui s'expriment en langue des signes font-elles beaucoup d'expressions avec leur visage? Dans la langue des signes, il y a vraiment une richesse d'expression faciale. On peut avoir un seul signe auquel on va ajouter énormément d'informations avec nos expressions faciales et corporelles, explique Caroline Hould. Par exemple, un froncement de sourcils peut transformer une phrase simple en phrase interrogative. Les expressions faciales et corporelles sont une part très importante de la structure grammaticale de la langue des signes québécoise. Est-ce que toutes les personnes sourdes lisent sur les lèvres? Je pense qu'il y a un mythe par rapport à la lecture labiale, comme quoi c'est quelque chose de très facile. Ça demande énormément d'efforts et de concentration. Il y a beaucoup de déductions qui entrent en ligne de compte aussi, répond Caroline Hould. Quelle est la meilleure façon d'entrer en contact avec une personne sourde? Il y a vraiment une diversité de façons, parce que les personnes sourdes ont une variété de préférences sur la façon dont elles veulent s'exprimer. Elles peuvent vouloir s'exprimer par signe avec la LSQ ou oralement, ou elles vont préférer embaucher un interprète ou utiliser l'écriture. Idéalement, il faut demander à la personne sourde quelle est sa préférence, suggère Caroline Hould. C'était l'heure du conte, vraiment pour tous. Un texte de Véronique Larocque, paru le 23 septembre 2025 dans la presse.
Le crédit d'impôt pour personnes handicapées, que des avantages. Un texte de Pascal Filon, paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad. Le crédit d'impôt pour personnes handicapées, CIPH, est un outil précieux pour améliorer votre bien-être financier. Finautonome en parle beaucoup, car nous constatons au quotidien qu'il facilite vraiment l'accès à des aides qui améliorent le revenu disponible dans vos poches. En plus de l'avantage fiscal que procure le CIPH, l'admissibilité à ce crédit ouvre la porte à plusieurs autres mesures fédérales. Il permet également de faciliter l'admissibilité au crédit d'impôt québécois analogue au CIPH. D'ailleurs, Luc Godbout et son équipe de chercheurs viennent de rendre publique une analyse vraiment intéressante pour comprendre les impacts des mesures fiscales sur les revenus disponibles des personnes handicapées et d'identifier des pistes pour améliorer leur soutien. Par exemple, pour les personnes seules vivant avec des revenus faibles et travaillant à temps partiel ou recevant des prestations d'aide sociale, l'admissibilité au CIPH entraîne une hausse substantielle du revenu disponible. En effet, une personne à faible revenu travaillant avec un salaire annuel de 22 230 $ voit son revenu disponible passer de 21 884 $ à 24 497 $ grâce au CIPH. C'est donc une augmentation notable de 2 613 $ dans les poches de la personne. Finautonome est là pour vous accompagner dans vos démarches pour obtenir le CIPH. Nous vous guidons pas à pas pour vous assurer un maximum de chances d'être admis à ce crédit d'impôt incontournable, ainsi que plusieurs autres opportunités financières spécifiques aux personnes en situation de handicap. Numéro de téléphone 1-833-866-7334. Courriel aide@finautonome.org. finautonome.org. Actuellement, l'importance du CIPH est renforcée par l'annonce d'une nouvelle prestation du gouvernement fédéral, la prestation canadienne pour les personnes handicapées, PCPH. Il est urgent d'expliquer que l'admissibilité à la PCPH passe par le CIPH. Si vous n'avez pas encore demandé le CIPH, vous ne pourrez pas bénéficier de la PCPH dès juillet 2025. Vous pourriez vous priver de 2 400 $ par année si vous vivez sous le seuil de pauvreté. La prestation canadienne pour les personnes handicapées, PCPH, une opportunité à saisir, mais des défis sont à relever. C'est une excellente nouvelle. Le gouvernement fédéral va verser jusqu'à 2 400 $ par année aux personnes handicapées à faible revenu dès juillet 2025. Malheureusement, au Québec, les personnes qui ont recours au programme d'aide sociale pourraient voir cette aide réduite si nous n'agissons pas dès aujourd'hui. Pourquoi? Actuellement, les règles québécoises d'aide sociale incluent tous les revenus, y compris la PCPH, dans le calcul des prestations versées. C'est injuste et c'est contre l'esprit de la loi qui a permis la mise en place de cette prestation. Pour y remédier, le mécanisme est simple et connu. Il suffit de modifier la réglementation québécoise pour exclure la PCPH du calcul des prestations d'aide sociale. Plusieurs provinces et territoires ont déjà convenu de ne pas récupérer de somme équivalente à la PCPH. Le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et le Nunavut. À Terre-Neuve et Labrador, notamment, on a décidé de bonifier la nouvelle prestation en annonçant un montant de 400 $ par mois en su de la PCPH. Nous devons nous assurer que le Québec suivra ces exemples. Que faire? Informez-vous. Finautonome offre des conférences gratuites pour tout comprendre sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées et sur la prestation canadienne pour personnes handicapées. Agissez. Demandez à votre député de changer cette règle et de protéger la PCPH. Partagez l'information. Faites connaître cette situation à vos proches. C'était le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Que des avantages! Un texte de Pascal Filon paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad.